Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Yebamot, page 104 d'Af Kuf Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Veshel Ir Anidachat et la sandale appartenant à la ville égarée, Veshel Zaken Asui Lichvodo et les sandales qui ont été faites pour un vieillard pour l'honorer dans sa mort, Lotachlot Veim Khalsa Khaleset Absula. Il ne faudra pas faire avec eux la Khalitsa. Et même a posteriori, si elle a été faite, elle n'est pas valable. Explique Rashi. À propos de la sandale lépreuse, Rava est d'avis que de même que pour l'impureté, elle n'est pas considérée comme ayant atteint sa destinée, et elle n'est pas encore brûlée, pareil à propos de la khalitsa. Et donc, c'est une sandale, et elle est valable. De même, à propos de la sandale qui fait partie de l'idole, l'idole brisée n'en est plus une, et ses débris sont permis. Et donc, la sandale de l'idole n'est pas destinée à être brûlée. Tandis que celle qui a été offerte à l'idole, ou bien la sandale de la ville égarée, dont leur destinée, leur but est d'être brûlés, ils sont considérés comme ayant déjà atteint leur destinée, et donc ceux-ci ne sont plus des sandales, et ils ne sont plus valables. Et à propos de la sandale mortuaire, la Gemara s'explique. Amarle Ravina le Ravashi a demandé Ravina Ravashi, Maishna Zaken Ha'asui Lichbodo de laver l'Ucha Avid, pourquoi la sandale mortuaire n'est pas valable? Car elle n'a pas été faite pour marcher dedans. De Bedinanami, laver l'Ucha Avid, la sandale réservée à la Khalitsa, qui est déposée au tribunal, elle aussi ne sert pas à marcher. Elle ne sert que pour la Khalitsa. Alors pourquoi est-elle valable? Amarle lui a répondu Ravashi et Ravina, Ilou masgibesh lucha de bedina mikapid aledaina. Si l'envoyé du tribunal va se servir d'elle et marcher avec, est-ce que les juges vont se fâcher? Donc en théorie, elle peut servir aussi à marcher. Tandis que la sandale mortuaire ne sert absolument pas à marcher. Et c'est là qu'on termine le cours du Daf Yomi, du Daf Kuf Gimel. Maintenant, par la Mishnah, on commence le cours du Daf Yomi, du Daf Kuf Dalod. Nous dit la Mishnah, Khalsa Balaila Khalitsa Kshera. Si la Khalitsa a été faite de nuit, elle est valable. Veu Rabbi Elazar possède. Tandis que d'après Rabbi Elazar, elle ne l'est pas. Bismol la Khalitsa Tapsula, veu Rabbi Elazar marchir. Et si pour la Khalitsa, elle a déchaussé le pied gauche, la Khalitsa n'est pas valable. Tandis que d'après Rabbi Elazar, elle l'est oui. Commence la Gemara. Lema be'a kamiflege. Peut-être qu'on va pouvoir expliquer de la façon suivante la divergence entre la première opinion et Rabbi Elazar. De Mar Savar, Makshinan Rivim le Negaim, ou Mar Savar, Lo Makshinan Rivim le Negaim. À propos des altérations lépreuses, le verset nous dit, Uve yom hera otbo. Et le jour où sera aperçu dans lui une altération lépreuse. De là, on apprend que la lèpre ne pourrait être vérifiée que le jour et non pas la nuit. Et il y a un autre verset qui nous dit, Val piem ye kol riv vechol naga. Et c'est de leur bouche qu'est jugé tout débat et toute altération lépreuse. Alors la première opinion ne commande pas la proximité du rive au néga, du débat à la lèpre, et même que la lèpre ne pourra pas être vérifiée la nuit, les débats le pourront oui. Et donc la khalitsa le pourra oui. Tandis que Rabbi Elazar commente la proximité, et de même que la lèpre n'est pas vérifiée la nuit, pareil tout débat n'est pas consulté la nuit. Répond la Gemara, non. De Kula Alma, lo makshinan rivim onegaim. D'après toute opinion, on ne commande pas la proximité de rivim onegaim, des débats à la lèpre. Dei makshinan, afilu gmardin, balaila namilo. Étant donné que la Mishnah nous dit dans la Masechet Nedarim, dine mamonot danim bayom, vegomrim balaila. Pour les droits civils, le tribunal doit se consulter la journée, mais peut quand même donner la sentence de nuit. Or, si on commande la proximité de rivim onegaim, il n'y a rien dans les droits civils qui peuvent être faits de nuit. En effet, à propos de la lèpre, rien n'est fait de nuit. Donc forcément, pour comprendre la Mishnah dans la Masechet Nedarim, il faut dire qu'on ne commande pas la proximité. Et à propos de notre Mishnah, voici la divergence. Marsavar Khalitsa Kitrila Din Damia ou Marsavar Khalitsa Kigmar Din Damia. D'après Rabbi Elazar, la Khalitsa est comparée à un débat, à une consultation juridique, et donc n'est valable que le jour. Tandis que d'après la première opinion, la Khalitsa est comparée à la sentence, à la fin du débat, et pourrait être faite de nuit, comme on l'a vu dans la Mishnah dans la Masechet Sanhedrin. Nous raconte la Gemara. Rabba Barchia Katospa'a, Avadouvda Bemok Ubeyechidi Ubalaila. Rabba, le fils de Chia qui venait de Katospa'a, a fait faire une Khalitsa avec un chausson, lui-même était seul, et cela a été fait de nuit. Amar Shmuel, Kamar Rav Gouvre de Avid Kihida. S'est exclamé Shmuel, comment ce sage est tellement sûr de lui-même pour pouvoir suivre les opinions qui sont uniques contre la majorité. On avait dit que la chausson qui n'est pas en cuir n'est valable que de près Rabbi Meir. On va voir dans la Mishnah, dans le Hamoud Bet, que la Khalitsa qui n'a été faite qu'en présence d'un seul sage n'est valable que de près Rabbi Akiva, et ce n'est pas d'après tout le monde qu'elle est valable de nuit. La Gemara s'étonne de Shmuel. Maïkashiel. Pourquoi il s'est exclamé? Pourquoi il n'était pas content de ce qu'a fait Rabba Bachia? Imok, stamatania. Ilaila, stamatania. Si la raison de son mécontentement est à cause de la chanson? La Braïta qui rapporte cette opinion la rapporte sans nous dire l'auteur, d'une façon générale. Et cela nous prouve que c'est l'opinion générale. Et si son mécontentement était le fait d'avoir fait la Khalitsa la nuit, cette opinion aussi nous a été rapportée dans la Mishnah d'une façon générale. Et cela nous prouve que c'est l'opinion majoritaire. Dit le Gemara, et là, Yuchidi Kakashiele. Son mécontentement provenait du fait que la Khalitsa a été faite qu'en présence d'un sage. Echi avid de Yuchidi. Pourquoi l'a-t-il fait seul? De Yuchida Ktanila. Cette opinion a été mentionnée dans la Mishnah qu'au nom d'une personne. De Tnan, comme on l'a vu dans la Mishnah. Khalsa Bishnaim. Si la Khalitsa a été faite qu'en présence de deux personnes, ou bien même si elle a été faite en présence de trois personnes, mais il s'est avéré qu'une d'elles est apparentée, ou bien pour une raison ou une autre n'est pas apte à juger, et donc il en reste que deux, Khalitsa Tapsula, la Khalitsa n'est pas valable. Le Rabbi Shimon, le Rabbi Yochanan Hassan, l'Armachirim, et d'après Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan, le cordonnier, est lui valable. Ou Maase Bechat Chechalat Beno le Bena Bevet Asurim, ou Ba Maase Lifni Rabbi Akiva, Virchir. Et cela est arrivé une fois, une Khalitsa qui a été faite en prison, entre lui et elle, entre le Yavam et le Yavama. Et la question a été posée à Rabbi Akiva, est-ce que cette Khalitsa est valable? Et Rabbi Akiva l'a rendu valable. Alors Shmuel n'était pas content, car premièrement, cette opinion n'est qu'une opinion minoritaire, et en plus de cela, Rabbi Yosef, le fils de Binyumi, nous a dit au nom de Rav Nachman, que la halakha ne suit pas l'opinion de ces deux sages, de Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan. Donc Rabba Barakhia n'aurait pas dû faire la Khalitsa seul. Et si tu veux une autre réponse pour comprendre le mécontentement de Shmuel, les deux autres points, celui du chausson et celui de la nuit, ne sont aussi que des opinions minoritaires et non pas approuvées par la majorité. De Tania Amar Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, Ani Raiti et Rabbi Shmuel Ben Elisha, Shechalat Bemok Bihidi Balayla. Quand on a vu dans la Braïta que nous dit Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yossi, j'ai vu de mes propres yeux Rabbi Shmuel, le fils d'Elisha, qui a fait faire la Khalitsa avec un chausson, seul et de nuit. Et donc on voit que ce n'est que l'opinion de Rabbi Ishmael. La Mishnah avait dit « Bismol Khalitsa vechule ». On a une divergence à propos de la Khalitsa qui a été faite en déchaussant le pied gauche. « Maïta Amad Rabbanan ». Pour quelle raison Rabbanan, la première opinion, n'accepte pas cette Khalitsa ?« Amaroula Yalfinan Regel Regel Mimtora ». Nous dit Oula, étant donné qu'à propos de la Khalitsa, le mot « Regel » a été employé, et à propos du lépreux aussi, le mot « Regel » a été employé, on fait l'analogie entre les deux. Malo Alan de Yamin, Afkan de Yamin. De même qu'à propos du lépreux, il s'agit du pied droit. C'est écrit explicitement dans le verset Alboren Raglo Ayumanit, sur l'orteil de son pied droit. Pareil à propos de la Khalitsa, il s'agit du pied droit. Demande la Gemara, Rabbi Elazar, Loyalif, Regel, Regel, Mimsora. En suivant ce raisonnement, si Rabbi Elazar accepte la Khalitsa du pied gauche, c'est que lui ne fait pas l'analogie entre la Khalitsa et le lépreux. Et il ne tient pas compte de la ressemblance des mots Regel. Et comment cela est-ce possible? Vatania en a vu dans la Braïta. Rabbi Elazar Omer, Minayin le Retsia chez Ibozen Ayemanit. La Torah nous dit à propos de l'esclave juif. Il va devoir travailler chez son maître durant 6 ans. Et la 7e année, il est libre. Et si à la 7e année, pour une raison ou une autre, il refuse d'être affranchi, alors c'est écrit dans le verset, Veratza Adonav et Ozno Bamartzea. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Alors nous dit Rabbi Elazar, d'où est-ce qu'on sait que ce percement devrait être fait à l'oreille droite? Neymar Khan Ozen. Veneymar le Alan Ozen. Ma le Alan Yamin. Afkan Yamin. Le verset a employé ici le mot Ozen, oreille. Et par la suite, à propos du lépreux, le verset a aussi employé le mot Ozen. C'est écrit dans le verset, Altenour Ozen Amitaer Hayemanit. Sur le lobe de l'oreille droite. Alors on fait l'analogie entre le lépreux et l'esclave. De même qu'à propos du lépreux, il s'agit de l'oreille droite. Pareil, à propos du percement de l'esclave, il s'agit de l'oreille droite. Donc on voit que Rabbi Elazar tient oui de ce commentaire. Alors de même qu'il le tient à propos de l'oreille, pourquoi ne le tient-il pas à propos du pied? Répond la Gemara, Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Mukhlefet Ashita. Nous dit Rabbi Yitzhak, le fils de Yosef, au nom de Rabbi Yochanan, en effet les opinions se sont inversées. Et il faudra dire dans ma Mishnah, Bismol Khalitsa Takshera, Rabbi Elazar Possel. La Khalitsa qui a été faite en déchaussant le pied gauche est valable. Et d'après Rabbi Elazar, elle n'est pas valable. Et donc c'est Rabbi Elazar qui ne tient pas de cette Khalitsa, étant donné que c'est lui qui fait le commentaire du lépreux. Rava Amar lo olam lo tepur. Rava nous dit, pour répondre à la question, pas la peine d'inverser les opinions. Ozen, ozen, moufne, regel, regel, lo moufne. Tout commentaire commenté à partir de deux mots semblables sera valable que si les deux mots commentés sont en trop. Mais si les mots semblables ne sont pas en trop, l'analogie sera faite que si elle n'a pas d'objection. Donc nous dit Rava, entre le lépreux et l'esclave, l'analogie est possible. étant donné que les deux mots ozen, ozen sont superflus, étant donné que dans chaque section, ils sont écrits plusieurs fois. Mais le commentaire entre le lépreux et la khalitsa n'est pas possible. Étant donné que le mot régel de la khalitsa n'est pas superflu, il n'est écrit qu'une fois. C'est pour cela que Rabbi Elazar tient de ce commentaire à propos de l'esclave et non pas à propos de la khalitsa. Demande la Gemara Vechilo Mufne Maipir Raika. Comme vous avez remarqué, j'avais précisé que si les mots semblables ne sont pas entre eux, le commentaire de l'analogie n'est pas possible que s'il y a une objection. Alors demande la Gemara quelle objection y a-t-il à ce commentaire. Répond la Gemara Ika le Mifrach Mal Metzora Sheken Taun Et Erez Ve'ezov Ushnitolaat. On pourra objecter qu'il n'est pas possible de comparer la khalitsa au lépreux, car les conditions, les halachot du lépreux, sont plus strictes. Outre le pied droit, il lui faut un bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate. On commence la Mishnah suivante. Avant de commencer, je vous lis un verset. V'chalta na'alo me'al raglo v'yarka befana v'anta v'amra. Kachaye ase la'ish asher lo yivne et bet achiv. Elle lui ôtera sa chaussure du pied, crachera devant lui et lui dira à haute voix. Ainsi est traité l'homme qui ne veut pas édifier la maison de son frère. Donc la femme qui fait la khalitsa a trois choses à faire. À le déchausser, à cracher devant lui et à parler. Alors nous dit la Mishnah. Khalitsa v'rakka aval lokara. Elle l'a déchaussé et a craché, mais n'a pas dit ce qu'il fallait dire. Khalitsa takshera, la khalitsa est valable. Car avaraka avalo khalsa, khalitsa tapsula. Si elle a dit ce qu'il fallait dire et elle a craché, mais elle ne l'a pas déchaussé, la khalitsa n'est pas valable. Khalsa vekara avalo rakaka. Si elle l'a déchaussé, elle a dit ce qu'il fallait dire, mais elle n'a pas craché. Rabbi Elazar omer khalitsa tapsula, Rabbi Akiva omer khalitsa takshera. D'après Rabbi Elazar, la khalitsa n'est pas valable, tandis que d'après Rabbi Akiva, elle est valable.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On tourne la page, on découvre d'Alad Amoud Bet. Amarle Rabbi Elazar, Rabbi Elazar a dit à Rabbi Akiva, c'est écrit dans le verset, Kacha Yase, ainsi sera fait. Maintenant, il est connu que chaque fois que le verset employait le mot Kacha, ainsi, c'est pour nous faire savoir que la demande de la Torah est indispensable. Donc, puisque le verset a dit Kacha Yase, ainsi sera fait. Kol davar shu ma'aseh me'akev. Chaque chose qui est un acte dans la khalitsa est indispensable. Et compte tenu que le crachement est un acte, donc il est indispensable. Amar le Rabbi Akiva, Rabbi Akiva a répliqué à cela, Misham raya. Justement, c'est du même verset que je prouve mon opinion. Dans le verset, il est écrit, Kacha ya'aseh la'ish. Ainsi sera fait à l'homme. Kol davar shu ma'aseh be'ish. Tout acte qui est fait à l'homme est indispensable. Donc, déchausser l'homme est fait à l'homme et est indispensable. Tandis que le crachement n'est pas craché à l'homme, et donc il n'est pas kacha yaaseh la'ish, ainsi sera fait à l'homme, et donc il n'est pas indispensable. Ha-cheresh shenechlat. Quand le terme cheresh est employé par la Mishnah, on ne doit pas le traduire sourd, mais plutôt sourd-muet. Donc l'homme sourd-muet à qui on a fait la khalitsa. Ve-cheresh shechalta, ou bien la femme sourde-muette qui a fait la khalitsa. Ve-choletet le katan, ou bien celle qui a déchaussé un enfant. Khalitsata psula. Cette khalitsa n'est pas valable. Une enfant qui a fait la khalitsa va devoir la refaire une fois qu'elle grandit. Et si une fois qu'elle a grandi, elle n'a pas refait la khalitsa qu'elle vient de faire n'est pas valable. Nous explique le Tosfot Yom Tov pourquoi la Mishnah a mentionné la solution, qu'elle refasse la khalitsa quand elle grandit, pourquoi la Mishnah n'a pas dit simplement que cette khalitsa n'est pas valable, étant donné que dans la Gemara on verra qu'il y a une divergence entre les Tanaïm et ce qu'en effet la khalitsa de la petite n'est pas valable. Et si la Mishnah n'aurait que dit simplement que la khalitsa n'est pas valable, j'aurais pensé que cela veut dire qu'elle n'est pas une bonne khalitsa. Mais elle a quand même une valeur quelconque. C'est pour cela que la Mishnah s'explique. Elle va devoir refaire la khalitsa quand elle grandit. Et si elle ne l'a pas refaite, ce qu'elle a fait maintenant n'a aucune valeur. Nous continuons la Mishnah. Khalitsa bishnaim, o bishlosha venimsa echadnem krovo pasul. Si la khalitsa a été faite en présence de deux personnes, ou bien même si elle a été faite en présence de trois personnes, dont il s'avère que l'une d'elles n'est pas apte, elle est en famille avec le Yavam ou le Yavama, ou bien elle est inapte pour une raison ou une autre. Khalitsa tapsula, la khalitsa n'est pas valable. Rabbi Shimon, Rabbi Yochanan, san lar marchirim. Et d'après Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan le cordonnier, elle est oui valable. Ou maaseh be'echad shechalatz beno lebena bevet asurim, ou b'maaseh lifnei Rabbi Akiva v'hirshir. Et en effet, il y a eu une fois une khalitsa qui a été faite que entre lui et elle, entre le Yavam et le Yavama, dans une prison. Et la question a été posée à Rabbi Akiva, et lui a répondu que la khalitsa est valable. On commence la Gemara. Amarava, Ashta de Amat Kirelome Akva, nous dit Rava, maintenant que la Mishnah nous a dit que la proclamation n'est pas indispensable, le Vikar Ilem Vilemet Shechaltsu Khalitsa Tamshera. Compte tenu de cela, Si la khalitsa concerne un muet ou une muette, elle est valable. Demande la Gemara, maintenant on a pris dans la Mishnah, Kheresh Nechlaz, Vachereshet Nechletsa, Vachkoletet Minakatan Chaset Absula, le sourd muet qui en a fait la khalitsa, ou bien la sourde muette qui a fait la khalitsa, ou bien celle qui a fait la khalitsa à un enfant, cette khalitsa n'est pas valable. Maïtama, pour quelle raison? Lav Mishum de Lav Nekirianinu, n'est-ce pas que la raison est, car ils sont dans l'impossibilité de faire la proclamation, et donc, pas comme nous le dit Rava, répond la Gemara, lo, Mishum de Lav Nedeaninu, non! La raison de leur inaptitude est due à leur manque de responsabilité. Ils ne sont pas saints d'esprit. Demande la Gemara, Iyachi, Ilem, Veilemet, Nami. S'il en est ainsi, pourquoi le muet ou la muette sont, oui, apta la khalitsa? Eux aussi ne sont pas saints d'esprit. Dit la Gemara, non, c'est pas vrai. Amar Rava, Ilem, Veilemet, Bnederaninu. Upumayu, ou de Kaivleu. Nous dit Rava, le muet ou la muette sont, oui, raisonnables. Ils sont, oui, saints d'esprit. Ils ont simplement une infirmité à leur bouche. Demande la Gemara, Ve'amre de Beraviyanaï le fiche no Be'amar Ve'amra. Demande la Gemara, c'est pas vrai. Rabbi Yanaï nous a expliqué la raison de la Mishnah. Pourquoi le sourd-muet ou la sourde-muette n'est pas apte à la Khalitsa? Car c'est écrit dans le verset Ve'amar Ve'amra. Il y a une phrase que lui devra dire et une phrase que elle devra dire. Et le muet est dans l'impossibilité de dire quoi que ce soit. Donc cela contredit l'opinion de Rava. Dit la Gemara en effet, et là qui est Itmar de Rava, c'est pas Itmar. Rava n'a jamais dit ce qu'on a dit avant. Et en fait, l'enseignement de Rava se rapporte sur la fin de la Mishnah. Le sourd muet à qui on a fait la khalitsa. Et la sourde muette qui a fait la khalitsa. Et celle qui a fait la khalitsa à un enfant, cette khalitsa n'est pas valable. Et comme nous le dit Rav Yanaï, étant donné qu'ils sont dans l'impossibilité de faire la proclamation. Alors, Amar Rava, sur cela nous dit Rava, Ashta de Amar Kriya Meakva, maintenant qu'on apprend de la Mishnah que la proclamation est indispensable, le fikach ilem veilem et shechatu chalitzatam sula. En fonction de cela, ce n'est pas que la khalitza des sourds-muets qui n'est pas valable, mais aussi la khalitza de ceux qui ne sont que muets. Alors maintenant, la question qui se pose, et que la Gemara elle-même va s'en occuper, c'est la question suivante. En raison de la conclusion que Rava vient d'avoir, que la proclamation est indispensable, et par conséquent le muet qui est dans l'impossibilité de faire la proclamation est inapte à la khalitza, on ne comprend pas le début de la Mishnah. Je vous rappelle le début de la Mishnah. Chaltza avorkeka aval lokara chalitza takshera. Si elle l'a déchaussée et elle l'a crachée, mais elle ne l'a pas proclamée, la chalitza est valable. Comment est-elle valable si la proclamation est indispensable? Alors on nous dit à cela la Gemara, umatnitim que Rabbi Zera. Et la Mishnah suit le raisonnement de Rabbi Zera. De Amar Rabbi Zera, kol haraoui le bila, en bila ma kevet bo, vechol che en raoui le bila, bila ma kevet bo. Alors je vais procéder par l'ordre suivant. D'abord je vais donner la traduction littérale. Après l'explication des propos de Rabbi Zera, et seulement après le rapport à notre traité. Bila veut dire mélanger. Alors nous dit Rabbi Zera, kol haraoui le bila, tout ce qui peut être mélangé. En bila me'akevet bo. Le mélange n'est pas indispensable. Vechol she'en raoui le bila, et tout ce qui est dans l'impossibilité d'être mélangé, bila me'akevet. Le mélange est indispensable. Voici pour la traduction littérale. Et maintenant l'explication. La Torah permet à quiconque d'offrir au temple une oblation. L'oblation offerte n'a pas de mesure fixe. Chacun pourra décider sa mesure. La mesure choisie devrait être précisée en Issaron. Le Issaron est le dixième de la Efa. Donc chacun pourra décider combien d'Issaron veut-il apporter à son oblation. Et la Mishnah dans la Masechet Menachot nous dit, celui qui a promis d'offrir une oblation de 61 Issaron ne pourra pas apporter toute la quantité dans un bol. Il va devoir apporter 60 dans un bol, et un dans un autre bol. Étant donné qu'il faut pouvoir bien mélanger l'oblation, et nos sages nous ont appris que 60 Issaron sont mélangeables en une fois, dans un bol, mais pas plus. Alors, de là on comprend que le mélange de l'oblation est indispensable. Demande la Gemara dans la Maseret Menachot, comment cela est-ce possible? Il y a une Mishnah qui nous dit, Im lo balal kasher, s'il n'a pas mélangé l'oblation, elle est quand même valable. Et à cela a répondu Rabbi Zera, le fait de pouvoir mélanger est indispensable. Si le mélange est possible, même qu'il n'a pas été fait, c'est kasher, c'est valable. Et s'il est impossible, il est indispensable. En fonction de cela, on va dire souvent le même raisonnement. Comme par exemple dans nos propos. Le pouvoir de faire la proclamation est indispensable. Et si la khalitsa a été faite avec des personnes qui sont dans la possibilité de faire la proclamation, la khalitsa est valable même si la proclamation n'a pas été faite. Mais s'ils sont dans l'impossibilité de faire la proclamation devient indispensable et la khalitza n'est pas valable. Et maintenant, tout est clair. Le début de la Mishnah parle du cas normal. celle qui aurait pu faire la proclamation, mais ne l'a pas fait. Elle l'a déchaussée, elle l'a crachée, mais elle n'a pas proclamé. Du fait qu'elle aurait pu proclamer, la proclamation n'est pas indispensable, et donc la khalitsa est valable. Mais à propos du muet ou de la muette, dont la proclamation est impossible, alors elle devient indispensable. Et donc, nous dit la Mishnah, la khalitsa du muet ou de la muette n'est pas valable. Et c'est là qu'on est arrivé à la fin du sujet.
Donc on va commencer, Bezrat Hashem, la deuxième cassette du chapitre 12. On la commence à l'endroit même où on a achevé la cassette précédente. Odaf Kufdalod Amudbet, 17 lignes avant la fin de la page. Charles Roulet, le avoua de Shmuel. Il y a une halakha qui a été envoyée au père de Shmuel. Yevama Shirakokarat Achlot. La Yevama qui a craché ne pourra faire que la Khalitsa. Je m'explique. La Yevama qui a craché devant son beau-frère, devant le Yavam, en présence du tribunal, même qu'elle n'a rien fait d'autre, la procédure de la Khalitsa est déjà entamée. Ceci est déjà appelé une Khalitsa. Et donc, elle devient inceste envers ses beaux-frères. Et elle ne pourra plus recevoir de le Yiboum. Elle ne pourra faire que la Khalitsa. La Gemara conclut, Michlal de Ifselala Me'achin. Comme quoi elle devient inceste au frère de son mari. Demande la Gemara, Mani, cette halakha suit l'opinion de Keltana. Il est ma Rabbi Akiva. Si l'on va dire que cela suit l'opinion de Rabbi Akiva, avant de continuer, on va faire une petite introduction. Il y a certains sacrifices qui sont composés de bassar et de emourim. Le bassar est la viande qui va être consommée par le Kohen ou par les propriétaires du sacrifice. Et les emourim sont les offrandes. Les parties qu'on fera brûler sur l'autel. Les offrandes ne sont pas indispensables. Au cas où elles ont été perdues ou souillées, et où on ne pourra plus les sacrifier sur l'autel, la viande est quand même permise à la consommation. Mais quand même, au cas où les offrandes sont là, il sera interdit de consommer la viande avant d'avoir sacrifié les offrandes sur l'autel. Et maintenant, je continue la Gemara. Hashta ou mabim kom mitzvah de ikal memar midid avem mourim de chilit neu lo meakve. Vechit neu meakve, amara beakiva lo meakve. Je donne d'abord l'explication générale et après on retraduira. Si déjà quand le crachement est une mitzvah au moment de la procédure complète de la Khalitsa, où l'on aurait pu comparer la mitzvah de cracher à celle de sacrifier des offrandes, et on aurait pu dire, de même que le sacrifice des offrandes n'est pas indispensable, au cas où il n'y a pas d'offrandes à sacrifier, quand même au cas où ils sont là, ils sont indispensables, ils empêchent la consommation de la viande. Pareil à propos du crachement. On aurait pu dire que s'il n'est pas possible de cracher, alors le crachement n'empêche pas la Khalitsa. Il n'est pas indispensable. Mais au cas où il est possible, on aurait dû dire qu'il est oui indispensable. Et la Khalitsa sans lui n'est pas valable. Et quand même Rabbi Akiva nous dit que même dans ce cas-là, le crachement n'empêche pas la Khalitsa, alors est-il possible de dire que le crachement qui a été fait n'importe comment, et non pas au moment de la Khalitsa, a une valeur quelconque, et va la rendre inceste sur ses beaux-frères? Maintenant je traduis le texte. Ou mavim kom mitzvah, si déjà au moment où on sait une mitzvah, au moment où on fait la Khalitsa, de ikalem et mar midi de avayem mourim, que j'aurais pu comparer le crachement aux offrandes à sacrifier, de chilit neu lo meakve, que s'ils ne sont pas sacrifiables, ils ne sont pas indispensables, de chilit neu meakve, et quand même quand ils sont sacrifiables, ils empêchent la consommation de la viande, et quand même Rabbi Akiva n'a pas fait d'analogie entre le crachement de la Khalitsa et des offrandes à sacrifier. Amar Rabbi Akiva, l'homme Akva, quand même Rabbi Akiva a dit que le crachement n'est pas indispensable, même au moment de la Khalitsa et même quand il est possible, alors Me'achin Ifsela, est-il possible de dire que le crachement qui a été fait n'importe quand va la rendre inceste sur ses beaux-frères? Donc cela ne suit pas l'opinion de Rabbi Akiva. Vela de Rabbi Elazar, alors n'est-ce pas ça va suivre l'opinion de Rabbi Elazar, que lui considère le crachement comme étant indispensable? Demande la Gemara, comment cela est possible? D'après Rabbi Elazar, cracher est indispensable et déchausser est indispensable. Donc pour qu'elle soit permise, pour rendre la Khalitsa efficace, il y a deux actes à faire. Et d'après Rabbi Elazar, on connaît la règle suivante. Au cas où la Torah nous demande de faire deux actes pour rendre une chose quelconque permise, les deux actes dépendent l'un de l'autre. Et l'un sans l'autre n'aura rien entamé. Donc, en suivant ce raisonnement, il n'est pas possible de dire que la halakha qui a été envoyée au père de Shmuel suit l'opinion de Rabbi Elazar. D'après Rabbi Elazar, le crachement n'a pas entamé la procédure de la Khalitsa, étant donné qu'il fait partie d'un des deux actes à faire, et tout seul, il n'a rien fait. Alors pourquoi elle devient inceste? Dit la Gemara, et là que Rabbi, la halakha en question suit l'opinion de Rabbi. De Tania, comme on a vu dans la Braïta. De nouveau, une toute petite introduction avant de continuer. La Torah nous demande, dans le Chumash Vayikra, la Parchat Emor, de sacrifier plusieurs sacrifices pour la fête de Shavuot. Entre autres, il y a le sacrifice de deux agneaux accompagnés de deux pains. Alors, nous dit la Braïta, Kivser Tzeret, En Mekachim et Alechem et la Bishrita. La consécration du pain dépend des agneaux. Et les agneaux ne vont pas consacrer le pain avant d'avoir été abattus. Ketzad, comment exactement? Shachet Lishman, Vezarak Daman Lishman, s'ils ont été immolés comme il se doit pour le sacrifice de la fête de Shavuot, et leur sang a été aspergé sur l'autel pour la mitzvah du sacrifice de la fête de Shavuot, Kadesh Alechem, le pain est devenu sacré. Mais au cas où Shachat Shelo Lishman, Vezarak Lishman, si l'immolation des bêtes n'a pas été faite comme il se doit, ils n'ont pas été immolés en vue du sacrifice de la fête de Shavuot, même que le sang a oui été aspergé comme il se doit, en vue du sacrifice de la fête de Shavuot, Lokidesh Alechem, le pain n'est pas devenu sacré. La Braïta continue, Shachtan Lishman, Vezarak Daman Shelo Lishman, si la procédure a bien démarré, l'immolation a été faite comme il se doit, en vue du sacrifice de la fête de Shavuot, et par la suite la procédure a été détériorée. Le sang n'a pas été aspergé comme il se doit. Il n'a pas été aspergé en vue du sacrifice de la fête de Shavuot. Kadosh veno kadosh, dit Rabbi. D'après Rabbi, même que la Torah nous demande de faire deux actes, immoler et asperger, les deux actes ne dépendent pas l'un de l'autre, et du moment où l'un a été fait, le pain reçoit une certaine consécration, et donc il est sacré pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Il n'est pas sacré complètement. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, l'olam veno kadosh, ad sheyichrot lishman veizrok daman lishman. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, nous dit, le pain n'est jamais sacré tant que les bêtes n'ont pas été immolées comme il se doit et leur sang n'a pas été aspergé comme il se doit en vue de sacrifice pour la fête de Shavuot. Et donc, pour conclure, ce n'est que d'après Rabbi que si la Yevama a craché devant le Yavam, la Khalitza est entamée et elle devient inceste envers ses beaux-frères. Demande la Gemara au Miyama Rabbi Akiva, Rukikalopasla, comment tu peux me dire que d'après Rabbi Akiva, le crachement ne le rend pas inceste? Vatania, on a vu dans la Braïta.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.